Je voudrais dire quelques mots maintenant en français pour tous les pèlerins qui sont venus de Suisse romande. Tout d'abord pour les remercier de leur courage et de leur zèle à glorifier la Sainte Église par ses sacrifices, par ce pèlerinage qu'ils ont fait en l'honneur de notre saint patron, Saint Nicolas de Flux. En ce 700e anniversaire de la Confédération, il me semble particulièrement important de tourner nos regards vers la providence divine. Le bon Dieu, en effet, a dit par le prophète Isaïe, « Je suis le premier, je suis également le dernier. C'est ma main qui a fondé la terre. C'est ma droite qui a jeté les cieux. Lorsque j'ai parlé, alors tout a été créé. » Eh bien, nous pouvons dire en vérité que cette providence divine se manifeste tout particulièrement pour nous autres, confédérés. Si nous regardons les fondements de notre confédération, en particulier le pacte de 1291, nous pouvons voir qu'il commençait par ces mots, « Au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de Dieu. Si Dieu veut, toutes ces ordonnances dureront pour l'éternité. » Oui, au nom de Dieu, au nom du Dieu Tout-Puissant. Cette providence s'exerce donc en particulier pour nous, en ce temps où nous pouvons voir les ravages de ce que Mgr Lefebvre a appelé la Troisième Guerre mondiale, bien plus meurtrière que les deux précédentes. En effet, les deux précédentes guerres mondiales ont opposé nation à nation. Elles ont opposé la force des armes à la saine raison. Elles ont opposé aussi ce monde qui s'est séparé de Dieu à cette jeunesse chrétienne engagée sous les drapeaux. En effet, ces deux premières guerres mondiales avaient tué des hommes. Mais la nouvelle guerre mondiale, cette troisième guerre mondiale, qui est le Concile Vatican II, a été bien plus meurtrière, parce que meurtrière des âmes, parce que meurtrière des consciences, parce que meurtrière de l'âme de nos enfants. En effet, nous savons par saint Matthieu qu'il faut craindre beaucoup plus celui qui peut tuer les âmes et amener les âmes comme les corps en enfer. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut rendre l'âme et le corps esclaves de sa puissance et les emmener en enfer, oui, celui-là, nous devons le craindre. Et cette guerre, cette troisième guerre mondiale, qui s'est exercée au sein même de l'Église, à l'intérieur même de l'Église, cette troisième guerre mondiale a été une guerre fratricide, une guerre fratricide. Si au temps de saint Nicolas de Flux, notre saint patron a su ramener la paix, la concorde, à travers ce qui allait être une guerre civile, eh bien maintenant, chers fidèles, c'est à nous qu'il incombe, à l'intérieur de ce que l'on pourrait appeler une guerre civile dans l'Église même, dans le sein même de l'Église, parce que nous sommes membres chacun les uns des autres, nous sommes de la race même de Dieu à l'intérieur de l'Église, nous appartenons à un même corps, le corps mystique de Jésus. Eh bien, dans ce corps mystique, nous avons en quelque sorte la même mission, la même mission que saint Nicolas de Flux a faire. Nous devons ramener à l'intérieur de l'Église la véritable unité. La véritable unité qui ne pourra venir que par nos sacrifices, que par nos prières. Et c'est en cela que nous pouvons voir la miséricorde divine qui a permis à notre nation, à notre confédération, de voir se renouveler chez nous la dignité, non seulement du sacerdoce, non seulement du saint sacrifice de la messe, mais voir à nouveau mis en lumière l'âme sacerdotale de Jésus-Christ. Et ceci, comme vous le savez tous, par la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qui a eu ses débuts, qui a vu ses débuts à Fribourg et qui maintenant a ses séminaires, en particulier à Écône, mais bien sûr dans le monde entier. Cette mission, cette unité que nous devons remettre à l'intérieur de l'Église, par nos prières, par nos sacrifices, eh bien, elle se trouve comprise en quelque sorte dans ces quelques mots que Saint Jean nous donne par l'Apocalypse. Saint Jean voyait en effet un cadavre. Et les cadavres, les aigles se rassemblent, s'unissent autour de ce cadavre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Saint Ambroise qui nous donne la clé de cette petite phrase de l'Apocalypse. Saint Ambroise nous dit en effet que c'est le corps du Christ qui est ce cadavre. Et nous savons que ça n'est pas un cadavre mort, sans vie. C'est le corps du Christ, non seulement vivant, mais qui donne la vie, qui nous donne la vie à nous autres dans le corps mystique, son corps mystique. Et ces aigles, eh bien, ce sont nous, les fidèles, ce sont les prêtres, ce sont les évêques qui, de haut, voient la doctrine de Dieu. Et avec cette doctrine de Dieu, examine les choses du monde, porte un regard surnaturel sur les choses du monde, car ils ont été nourris par Jésus, par le corps du Christ. Ils ont été blanchis par le sacrement de la pénitence. Voilà le nerf de notre combat. Voilà ce qui pourra nous donner la victoire, l'unité à l'intérieur même de la Sainte Messe. L'unité dans le combat pour la Sainte Messe. L'unité dans cette tension, dans cette volonté d'être saint à travers la messe, à travers le saint sacrifice de la messe. Ceci est particulièrement important, car le saint sacrifice de la messe est, comme nous le savons tous, comme cela est dit à l'intérieur du canon, le mystère de la foi. Et c'est la foi qui nous sauve, la foi vive, c'est-à-dire la foi qui opère, la foi qui est vive par ses œuvres. C'est pour cela, mes bien chers frères, que fidèle à la Sainte Messe, fidèle au saint sacrifice de la messe, fidèle à nous offrir avec Jésus dans le sacrifice de la messe, nous ne voulons pas seulement dire notre credo, mais nous voulons agir. Nous voulons montrer au monde que nous sommes les fidèles du Christ. Nous voulons montrer au monde que nous sommes les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu ont une lumière à porter dans le monde. La lumière ne doit pas rester cachée sous le boisseau, elle doit luire sur la montagne. Et nous devons être ces lumières, par nos actions dans nos familles tout d'abord, bien sûr, par la sainteté de nos familles, l'exemple des parents, l'exemple quotidien des parents, l'exemple qu'ils donnent à leurs enfants, afin que leurs enfants veuillent devenir des saints. Mais il n'en faut pas rester simplement à la famille, il faut aussi opérer, vouloir cette sainteté dans notre travail, dans le milieu de notre profession, dans la rue, dans nos cités, dans nos villages, dans nos villes, et plus encore dans nos nations, dans notre pays, dans notre chère Suisse. Nous devons réinstaurer, nous devons contribuer à la restauration du règne social de Jésus. Et cela par notre volonté de nous sacrifier avec Jésus dans le saint sacrifice de la messe. Bien sûr, si nous voulons agir avec Jésus, c'est pour le combat de la foi, pour le combat de la morale chrétienne. Et bien sûr, je suis persuadé que, conscient de cette mission que nous avons, eh bien, chacun de vous aura certainement déjà, mais voudra encore plus, porter main forte à ce référendum qui a été fait contre cette loi immorale que l'on veut donner à notre pays, cette loi immorale qui va détruire nos enfants, l'âme de nos enfants, l'âme de nos familles, l'âme de nos sociétés, puisque par la morale, par les commandements, par l'impureté qui va se répandre si cette loi passe, eh bien tous nos enfants, toutes les âmes de nos enfants et nos âmes elles-mêmes en pâtiront, seront salies, seront atteintes par cette horreur qui existe dans le monde actuel, qu'est ce péché d'impureté. Alors mes bien chers frères, nous devons agir. Nous devons agir pour le règne de Jésus-Christ. C'est une croisade. Ce référendum est une croisade pour que Jésus soit honoré dans l'âme de nos enfants, que ce ne soit pas permise cette loi inique qui veut détruire et les âmes, et les familles, et les nations. Alors, profitons de ce saint sacrifice pour nous offrir totalement à cette extraordinaire mission que le bon Dieu nous réserve, avec lui, par lui et pour lui, de restaurer, de tout récapituler, réinstaurer en lui, Jésus, et par Notre-Dame qui est toujours présente au pied de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Bien chers frères, je voudrais juste adresser quelques paroles à vous en langue française. J'ai donc expliqué que chaque prêtre, et spécialement ce jeune prêtre, est appelé d'annoncer la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu est spécialement résumée dans les 10 commandements de Dieu. Et nous voyons comment ces 10 commandements de Dieu, aujourd'hui, sont négligés, oubliés. Comment ces 10 commandements de Dieu, aujourd'hui, sont complètement anéantis. Le premier commandement, qu'il y ait un seul Dieu. Eh bien, ce seul Dieu, c'est la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et il faut également accuser ceux du péché contre le premier commandement qui ne cherchent que la soi-disant dignité humaine, le droit de l'homme, qui ne cherchent que leur propre plaisir. Alors tout cela, un péché contre le premier commandement. Deuxième commandement, le nom de Dieu. Eh bien, écoutez, ce murmure général aujourd'hui dans la société, cette révolte contre Dieu. Écoutez bien, n'est-ce pas, tous ces blasphémateurs dans les films publics. Je vous salue Marie, la dernière tentation du Christ. Est-ce que ce n'est pas une honte pour notre pays que des films comme ça soient émis dans la télévision? Prenez le troisième commandement de Dieu, le repos du sabbat, du dimanche. Bien, voyez comment ce commandement encore est négligé. Partout, dans les usines, par les paysans, dans notre temps. Quatrième commandement, les parents, les enfants, l'obligation des enfants d'obéir à leurs parents qui représentent Dieu. L'obligation des parents de procurer les biens à leurs enfants, d'écarter les dangers, spécialement la télévision, et de voir pour des écoles catholiques. C'est une obligation grave. Cinquième commandement, vous voyez, n'est-ce pas, aujourd'hui, comment avec l'avortement, on pêche 1000 fois contre ce commandement, partout. Quel assassinat des innocents aujourd'hui. Et il y a encore un danger plus grand. L'euthanasie qui nous menace déjà partout dans les hôpitaux et qui va prendre des proportions énormes si nous ne faisons rien. Sixième commandement, l'immoralité partout. On a honte de se promener aujourd'hui. Alors, je vous prie que nous passions vraiment cette veillée de prière ensemble. Avec ferveur, avec dévouement, avec zèle, afin que le bon Dieu nous bénisse avec beaucoup de vocations, afin que nous réussissions de rétablir peu à peu les institutions chrétiennes, les familles, les écoles, les monastères, les couvents, les séminaires, le sacerdoce donc, et même des États catholiques. Il n'y a pas une chrétienté sans les États catholiques. Et donc, mes chers amis, supplions la très sainte Vierge et saint Nicolas des Flux de nous aider, d'intercéder auprès de Dieu à son trône qui est tout puissant et qui peut changer les cœurs, qui peut transformer les âmes dans un seul instant par sa grâce. Et bien, demandons ce grand miracle dans cette nuit qu'il transforme tout d'abord notre propre âme l'âme de notre prochain et l'âme de nos compatriotes et spécialement aussi les responsables, l'âme des responsables dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Eh bien, chers frères, nous voici rassemblés une fois de plus sur cette prairie de Flueli, la patrie de Saint-Nicolas de Flue, pour unir notre pauvre prière, notre supplication, notre action de grâce, notre pénitence à celle de notre Seigneur lui-même. Dans l'acte le plus parfait qu'il a offert à la très sainte Trinité, dans la très sainte messe. Oui, cette année, nous voudrions d'abord souligner ce devoir fondamental, essentiel de toute créature, de l'action de grâce, devoir encore plus marqué cette année, de par cet anniversaire du 700e, de la 700e année d'existence de la Suisse. Si nous jetons un regard sur ce passé, sans faire attention ni trop à l'histoire, ni même à la politique, il nous vient à la pensée, en regardant justement cette histoire de la Suisse sous le regard de Dieu, sous le regard d'éternité, il nous vient à la pensée cette parole du psaume 126. Si Dieu n'édifie la maison, si Dieu ne construit pas la maison, eh bien c'est en vain que travaillent ceux qui essaient de l'édifier, ceux qui l'édifient cette maison. Si Dieu ne protège la cité, c'est en vain que la sentinelle veille. Il y a dans ces paroles, mes bien chers frères, une vérité fondamentale, essentielle, qui nous rappelle que Dieu est le créateur de toutes choses, et non seulement le créateur, mais aussi la providence, celui qui dispose de toutes choses. Rien ne se passe sans la volonté de Dieu, sans cette volonté explicite lorsqu'il s'agit du bien, sans la permission lorsqu'il s'agit des maux moraux. Et 700 ans de bénédiction, de miséricorde, de patience divine nous oblige à l'action de grâce, à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Juste deux petits exemples tirés précisément de cette histoire qui montrent cette intervention divine. Tout d'abord, si Dieu n'avait suscité Saint Nicolas de Flue, où serions-nous? La Suisse existerait-elle encore, alors qu'elle était au bord de la guerre civile? Un autre événement aussi, dont témoignent de si nombreuses personnes pendant la dernière guerre mondiale, une main est apparue dans le ciel qui empêcha les armées d'Hitler d'envahir la Suisse. C'est un fait historique reconnu que personne ne peut nier. Oui, nous avons bien raison de rendre grâce, bien des raisons de dire merci au bon Dieu. Eh bien, chers frères, si nous regardons, après ce bref regard sur le passé et les bienfaits de Dieu, si nous regardons actuellement le présent, ce qui se fait en Suisse aujourd'hui, mais aussi ce qui se fait dans le monde, eh bien, nous constatons partout ces initiatives pour construire un monde, une maison, une cité sans Dieu. Pour la plupart, il s'agit d'un indifférentisme. La religion ne dit plus rien. À tant et tant de concitoyens qui baignent dans les bienfaits de Dieu, finalement. Car les biens matériels viennent aussi de Dieu. Ils ont oublié Dieu, bien plus. Bien plus grave, ces lois qui attaquent Dieu, qui s'attaquent à la loi de Dieu, tout spécialement dans la morale. On l'a déjà souligné cette nuit, mais je voudrais rappeler ici ces changements dans le droit pénal qui permet l'homosexualité et toutes sortes d'autres publicités qui ne méritent pas de nom, qui allègent ou qui permettent ce qu'il n'est pas permis de permettre. Même dans l'enfance, cette campagne l'année passée contre les croix, qui est le signe le plus admirable, le plus grand de l'amour de Dieu pour nous, que l'Église avait le soin de répandre partout pour précisément nous rappeler cette bonté de Dieu, pour nous exciter à l'amour de Dieu et au sacrifice. Toutes ces attaques, toute cette ingratitude nous remplit de peine, de soucis, de peur pour l'avenir. Car comment prétendre à la bénédiction de Dieu lorsqu'on l'offense? Eh bien, chers frères, lorsque nous regardons le futur, eh bien, comme nous l'avons dit, nous sommes pleins de soucis. Et ces soucis ne proviennent pas des difficultés possibles économiques dues à la nouvelle Europe de 92. Ils ne proviennent pas non plus des possibles dangers d'une crise économique. Elles ne proviennent pas non plus de ces dangers toujours aussi menaçants. Ne nous laissons pas tromper par les apparences toujours aussi menaçants qui nous viennent de l'Est. Non, notre souci provient de ce que, oui, nous pouvons le dire, une grande majorité parmi nos concitoyens ont abandonné Dieu. Or, nous lisons dans l'Écriture sainte, Dieu n'abandonne pas, à moins qu'il ne soit d'abord abandonné. Et cela nous laisse plein de soucis, oui. Que faire alors? Que faire dans cette situation? Que nous n'hésitons pas à qualifier de dramatique pour les âmes. Que faire sinon nous tourner vers la très sainte Vierge Marie, vers le message de Fatima, vers le cœur douloureux et immaculé de Marie que la très sainte Vierge a donné encore une fois au monde, comme c'est selon ses paroles qu'elle a adressées à Sœur Lucie, comme le dernier moyen que le bon Dieu donne aux hommes pour le salut des âmes. Oui, tournons-nous vers ce cœur immaculé, douloureux de la très sainte Vierge Marie. Écoutons, mettons en pratique ce message de Fatima qui s'est réduit à deux mots, prière et pénitence. Prière et pénitence. Et attendons de sa bienveillante intercession que le bon Dieu puisse trouver dans ce cher pays plus de justes qu'à l'époque il n'en trouva dans Sodome et Gomorre. Oui, attendons de sa bienveillante intercession que Dieu daigne envoyer sur notre pays des grâces de conversion. Daigne faire revenir vers lui ceux qui l'ont quitté, ceux qui l'ont abandonné. Daignons prier, supplier ce cœur douloureux et immaculé, qu'elle daigne obtenir pour notre Suisse, pour bien des années encore, la bénédiction de Dieu et sa miséricorde, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Je dirai maintenant quelques mots en langue française. Bien chers fidèles, nous voici réunis dans ce lieu saint où frère Nicolas fut appelé si merveilleusement par le bon Dieu. Il quitta tout, comme disait l'Évangile d'aujourd'hui. Il quitta sa ferme, il quitta ses champs, il quitta ses fonctions de landamman. Il quitta sa chère épouse et ses enfants. Dieu le voulait ainsi, pour se retirer dans la solitude, dans la prière, dans la pénitence. Quel exemple pour tous ceux qui sont appelés, qui se sentent appelés par le bon Dieu, soit à devenir prêtre, soit à devenir religieux ou religieuse. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une famille chrétienne, sinon ses vocations? Qu'est-ce que c'est que la vocation? À quoi le bon Dieu appelle-t-il quand il appelle quelqu'un à devenir prêtre? Il veut qu'il devienne un autre Jésus-Christ. Le prêtre, ce n'est pas autre chose qu'un autre Christ. Jésus-Christ, sur la croix, était à la fois prêtre et victime de son sacrifice, vous le savez bien. Il a offert le sacrifice, et puis il s'est offert en victime par sa mort cruelle. Eh bien, le prêtre, que vous voyez à l'autel, il doit faire la même chose, toute proportion gardée. Il doit être le prêtre, celui qui offre. Jésus, hostie, bien sûr, mais il doit aussi s'offrir en victime avec l'hostie de l'autel. Quel idéal! Voilà l'idéal du prêtre que la Sainte Église propose à tous les jeunes gens. Don Bosco disait que 1 sur 3 est appelé par le bon Dieu à devenir prêtre. 1 sur 3. D'où vient-il alors que si peu se présentent à la porte du séminaire, et souvent même de vos chères familles chrétiennes, il y en a si peu, on en voudrait tant, on en voudrait tant plus. D'où est-ce que cela vient? Je vais tâcher de vous le dire. Tout d'abord, cela vient souvent, hélas, que les familles chrétiennes, les parents chrétiens, ont si peu de zèle pour mettre au monde une nombreuse progéniture. Ils ont peur d'avoir trop d'enfants. Quel malheur! Le pape Pie XII disait que les familles nombreuses sont les plus belles corbeilles de fleurs du jardin de l'Église, sont le terrain favorable où le bon Dieu fait germer la sainteté, les fleurs de sainteté, et spécialement les vocations dans les familles nombreuses. Écoutez la belle de Saint Nicolas de Flux, qui lui aussi fut père de familles nombreuses. Et puis ensuite, quelquefois, les parents, même quand ils ont une famille nombreuse, eh bien, ils ont peur que le bon Dieu leur prenne trop d'enfants. Ou bien ils ont déterminé depuis toujours que l'aîné gardera la ferme ou le métier du papa, que le second deviendra ingénieur diplômé, s'il vous plaît. Puis seulement le petit dernier, eh bien, si le bon Dieu daigne l'appeler, il sera prêtre, peut-être. Ah, si on décide comme cela, on risque de ne pas avoir de vocation. C'est comme ça qu'on tue des vocations. Parce que le bon Dieu est libre, il appelle qui il veut. Vous voyez la vocation du petit David, ils étaient nombreux enfants, peut-être 10. Alors voilà que le prophète se présente au père de famille. Un de tes enfants est appelé par Dieu pour devenir roi. Ah, magnifique. Alors le père présente l'aîné. Et le prophète dit, non, Dieu n'a pas appelé celui-là. Alors le papa présente le second. Le prophète répond, Dieu n'a pas appelé non plus celui-là. Et c'est seulement quand on arrive au dixième, au dernier, oui, celui-là, David, Dieu l'a appelé. Dieu est le maître. Il appelle qui il veut. Alors, et puis ensuite, quelquefois, et c'est le plus grave, les parents ne savent pas comment préparer le terrain pour être ce terrain favorable où vont germer les vocations dans l'enfance, dans la jeunesse. On dit, et c'est vrai, qu'une vocation se prépare sur le cœur ou sur les genoux d'une maman. Alors, comment vont préparer? Comment les parents chrétiens vont-ils préparer ce terrain favorable? Une vocation doit présenter toutes les conditions nécessaires. Dieu, bien sûr, est le semeur de l'Évangile qui sème sur tous les terrains. Il sème sur le chemin, il sème sur la pierre, il sème dans les épines. Et puis il sème aussi dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Et c'est seulement dans la bonne terre que la vocation va pouvoir germer. La bonne terre, chers parents chrétiens, ce sont bien vos familles. Vos familles chrétiennes, nombreuses si possible. Alors comment allez-vous faire pour préparer cette bonne terre? Eh bien, il y a trois obstacles. Il y a d'abord qu'on ne fait pas la prière en famille. Ensuite, il y a la télévision dans la maison. Et puis, troisièmement, quelquefois, il n'y a pas de bonnes écoles. Repassons ces trois choses en revue. D'abord, il n'y a pas la prière en famille. Quel malheur! On n'a pas pensé à transmettre ce flambeau de cette sainte habitude de la prière en famille. Je sais bien que le Concile a ravagé les bonnes traditions chrétiennes. Mais à vous, chers jeunes foyers chrétiens, à reprendre ces traditions, à reprendre le chapelet, prier en famille chaque soir, le père, la mère et les enfants. Et on commence déjà, avant la naissance du premier, la prière ensemble, chaque soir. On recèle l'unité du foyer. On efface les péchés, les incompréhensions, les petits froissements de chaque jour par la prière récitée en famille. Et on obtient tant de grâce et des vocations. Ensuite, la télévision, la boîte à images sale, la caisse à ordures, c'est rien d'autre. La télévision, ça ne va pas ensemble avec la vocation. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Ou bien dans la maison, il y a la télévision, il n'y aura jamais de vocation. Ou bien il y a des vocations, et c'est parce qu'il n'y a pas de télévision. On dirait que c'est une loi absolument rigoureuse. Alors, chers fidèles, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ce soir, de retour de ce pèlerinage, vous avez reçu tant de grâces pour comprendre que vous deviez devenir des saints et éloigner tous les instruments corrupteurs de votre foyer. Ce soir, aussitôt, vous mettez aux orties la télévision, au grenier. Voilà, on n'en parle plus. Pour ne pas laisser dans votre maison, dans votre salle de séjour, cet instrument corrupteur qui sème l'impureté, qui sème la violence, qui tourne les cervelles. Et puis enfin, je disais, l'école chrétienne. Hélas, souvent les parents chrétiens mettent les enfants à l'école du village sans trop se préoccuper si elle est bonne ou si elle est mauvaise. On devrait faire attention. Est-ce que cette école est bonne? Est-ce que cette école va pas pourrir, corrompre l'âme virginale de mes enfants? Voilà la question à se poser. Et s'il en est ainsi, alors, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons nous réunir à plusieurs familles et fonder des petites écoles primaires familiales. On va se débrouiller, comme il existe en Valais ou ailleurs. Et nous allons fonder quelques petites écoles primaires. Et puis ensuite, quand les enfants auront grandi, nous les enverrons dans des écoles secondaires, un peu plus loin, à Distédé, ou bien à Saint-Michel, ou bien à l'école de l'Étoile du Matin, ou bien à Salvan, bien sûr, etc. Voilà. Et ainsi, chers fidèles, vous aurez préparé dans vos propres foyers ce terrain favorable, où le bon Dieu se plaira à semer en abondance les vocations, où elles vont germer, elles vont aboutir. Si un sur trois est appelé par le bon Dieu, eh bien, ça sera la loi chez vous, et même plus, et même davantage. Il y aura un, deux, trois et plus qui seront appelés par le bon Dieu. Quel bonheur! Et heureux serez-vous si le bon Dieu vous en laisse un seul pour continuer la famille. Voilà, l'esprit chrétien. Voilà ce que nous vous devons demander. Que le bon Dieu daigne, par cette veillée de prière que nous avons faite avec tant de cœur cette nuit, que le bon Dieu daigne écouter nos prières et nous envoyer pour l'Église, c'est pas pour nous, c'est pour l'Église, pour la tradition vivante de l'Église qui vit en nous, dans nos familles, pour envoyer pour l'Église de nombreux ouvriers à sa moisson. Prions par l'intercession de Saint Nicolas de Flux, par l'intercession toute puissance de la Vierge Marie, Mère du Prêtre, que le divin Maître de la moisson envoie de nombreux ouvriers à sa moisson, sème dans les âmes de nombreux jeunes gens généreux cette idée, cette grande grâce, cette grande joie de la vocation sacerdotale, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes bien chers frères, si vous me permettez de vous présenter cette intention à l'occasion de ce pèlerinage ici au Flioli, de prier pour beaucoup de vocations. Comme je viens de dire, c'est tout d'abord le mystère de Dieu, c'est sa choix, lui qui choisit les hommes, qui choisit des pauvres créatures pour son œuvre de la rédemption. C'est son mystère. Mais d'autre part, c'est aussi notre collaboration, notre coopération. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout le devoir de la famille, des parents, et à plus forte raison, de la mère, qui se sacrifie, qui prie, qui sacrifie, afin que Dieu choisisse un l'usieur de ses enfants. Mais c'est aussi toute l'Église, vous donc, la communion des saints, notre prière, qui est absolument indispensable pour que Dieu nous donne beaucoup de vocations, afin que ceux qui sont appelés répondent. Et j'aimerais d'ajouter tout ce que j'ai dit, cet exemple magnifique, merveilleux de Saint Nicolas de Flux, de notre cher patron de notre pays, qui lui aussi était appelé. Voyez-vous, humainement, c'est complètement idiot. C'est la folie parfaite de quitter sa famille, sa chère épouse, ses 10 enfants. Pourquoi? Humainement parlé, c'est incompréhensible. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est permis? Lui qui s'est marié, et pourquoi il a quitté sa famille? Pourquoi il a quitté son épouse, ses enfants, qui étaient la plupart d'ailleurs tout jeunes? Parce que Dieu a appelé. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre explication. C'est Dieu lui-même. C'est son secret. C'est sa divine providence. C'est lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui choisit, qui appelle. Et si l'homme ne répond pas? Saint Nicolas de Flux a répondu. Il a choisi ce chemin certainement douloureux pour lui, et aussi bien sûr, a fortiori pour sa femme. Parce que, comme j'ai dit, parce que Dieu l'appelait. Et je pense que c'est vraiment un exemple pour nous. Si Dieu appelle, dans tous les domaines, si Dieu nous montre sa volonté, si lui nous donne une croix, n'importe quelle croix, dans la famille, avec les enfants, avec l'entourage, dans notre profession, si si Dieu nous donne une croix, si Dieu demande quelque chose de nous, c'est pas à nous de discuter. Et c'est non plus à nous de demander pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Les autres, ils l'ont tous. Moi, je prie depuis des années et des années. Rien qui change. Si Dieu appelle, et il appelle, de n'importe quelle manière, il faut suivre. Il faut être prêt, disposé. Il nous faut, mes bien chers frères, cette décision, cette résolution ferme de suivre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même l'a demandé, alors que Saint Nicolas de Flieux nous soit un exemple à l'occasion de cette veille de prière pour aussi, nous, de répondre celui qui est appelé, mais d'une manière plus générale, de répondre toujours à la volonté divine. Ainsi soit-il. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.